Bonjour à tous. Je pense que les enfants vont descendre avec les animateurs et animatrices pour leur temps aussi d'apprentissage de la parole. C'est une joie d'être là ce matin.
Alléluia.
Bonjour à tout le monde. Bonjour à Mère Mose. C'est vraiment beaucoup d'émotion pour moi et ma famille d'être là. Parce que tout a commencé ici, en tout cas pour moi, c'est ici que j'ai découvert le Seigneur autrement. Non pas que je ne le connaissais pas, je le connaissais, mais c'est à Mère Mose que je l'ai découvert, mais d'une manière spéciale. C'est vraiment pour moi une grande émotion d'être là ce matin à nouveau. Le Seigneur fait des merveilles. Et donc ce matin, je vais vous donner ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. C'est un message qui a été porté déjà à Beaulieu la semaine dernière. Il y a certains qui étaient à Beaulieu dimanche dernier qui vont réentendre ce message. Mais ce n'est pas grave parce que l'apôtre Paul nous dit « Il ne m'en coûte pas de vous répéter les mêmes choses car c'est une assurance pour vous. » Et c'est une manière pour le Seigneur d'asseoir véritablement son message dans nos cœurs. Donc, nous allons réécouter ce message pour certains, mais pour d'autres, le découvrir ce matin. Et je vous invite à lire, à prendre la parole, à l'ouvrir dans l'évangile de Matthieu. Matthieu au chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Et nous lirons à partir du verset 53. Matthieu 13, verset 53 à 58. Mais avant de lire le message, avant de lire ce passage, j'ai une petite histoire à partager avec vous. Une petite histoire qui concerne un petit aspect de ma vie. Une fois n'est pas coutume, je veux parler un peu de mon histoire. Mais il n'y a pas grand-chose dans cette histoire. Mais cela va nous permettre de glisser tout doucement vers le thème de ce matin. Mon père était trésorier dans un collège d'une petite ville du sud du Cameroun, ma ville de naissance. Et cette profession m'a beaucoup marqué. Non parce qu'elle avait quelque chose de spécial ou d'extraordinaire, il n'était que trésorier, mais parce que dès que mon père a eu ce poste, tout le monde et tous nos camarades du collège nous appelaient non plus par notre nom de famille, mais par le métier de notre père. Nous étions donc devenus les fils et filles du trésorier. Il est vrai que c'était une habitude dans ce établissement, que les élèves ne se distinguent que par la profession ou le métier de leur père. Ainsi, si ton père était médecin, tu étais fils de médecin. Si ton père était agriculteur, on t'appelait fils d'agriculteur. S'il était ministre, et cela a pu arriver, tu étais fils de ministre. Aussi étions-nous jugés non plus à notre juste valeur, mais à l'aune de la profession de nos parents. Mais même si cela a pu avoir un côté flatteur, surtout lorsque le métier du parent s'y prêtait, je me souviens que beaucoup ont vécu cette façon de faire comme une injustice. Parce qu'ils avaient le sentiment de ne pas être reconnus pour ce qu'ils étaient, mais à la valeur de leurs parents. Et cela a donné lieu à des situations aberrantes, où le fils d'agriculteur, par exemple, était moins considéré que le fils de médecin, parce que le métier d'agriculteur était à tort moins valorisé que celui du médecin. Et si je vous parle de cela, c'est parce qu'il y a une autre personne qui a fait l'objet d'une telle inconsidération. Son père, lui aussi, avait un métier qui était moins en vue à son époque. Il était charpentier. et lui aussi a été victime du mépris de ses concitoyens à cause des conditions socio-culturelles dans lesquelles vivaient ses parents. On l'appelait fils du charpentier. Cette personne, c'est Jésus. Les habitants de Nazareth, ville dans laquelle Jésus a grandi, connaissaient le métier de Joseph, son père. Et parce qu'ils connaissaient ce métier, ils ont pris l'habitude de ne voir et de ne regarder Jésus que comme le fils du charpentier et rien d'autre. Ainsi, pour eux qui avaient un mépris pour le métier de charpentier, Jésus étant fils de charpentier, ne pouvait rien faire d'autre d'extraordinaire dans sa vie que de devenir lui aussi charpentier. D'ailleurs, c'est ce qu'il est devenu. Les gens de Nazareth n'ont donc vu Jésus que par le métier de son père et non par ce qu'il était lui-même, véritablement. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à lire ce passage qui va s'afficher pour ceux qui n'ont pas leur Bible. Mais ceux qui ont leur Bible, vous pouvez l'ouvrir et lire avec moi. Matthieu chapitre 13, versets 53 à 58. Quand Jésus eut fini de raconter ses paraboles, il partit de là. Il retourna dans la ville où il avait vécu. Il enseignait ses concitoyens dans leur synagogue. Son enseignement les impressionnait, si bien qu'ils disaient « D'où tient-il cette sagesse et le pouvoir d'accomplir ces miracles ? N'est-il pas le fils du charpentier ? N'est-il pas le fils de Marie et le frère de Jacques, de Joseph, de Simon et de Jude ? Ses sœurs ne vivent-elles pas toutes parmi nous ? D'où a-t-il reçu tout cela ? Et voilà pourquoi il trouvait en lui un obstacle à la foi. Alors Jésus leur dit, « C'est seulement dans sa patrie et dans sa propre famille que l'on refuse d'honorer un prophète. Aussi ne fit-il là que peu de miracles à cause de leur incrédulité. » Amen. D'où tient-il ce pouvoir d'accomplir ces miracles ? N'est-il pas le fils du charpentier ? Voilà la question que les gens de Nazareth posent. Voilà ce qui les intrigue. Ce passage de Matthieu nous parle de la manière dont certains contemporains de Jésus le considéraient. Comment Jésus était-il apprécié dans cette ville de Nazareth qui était considérée comme sa propre patrie ? Voilà la question. Et cette question qui se pose déjà à cette époque, se pose aussi à nous aujourd'hui. Comment voyons-nous Jésus aujourd'hui ? Quel regard portons-nous sur Jésus aujourd'hui ? Qui est véritablement Jésus pour toi ? Qui est véritablement Jésus dans le monde, dans ce monde moderne dans lequel nous vivons ? Est-il, comme on le considérait à Nazareth, simplement et uniquement le fils du charpentier ? Ou a-t-il une autre dimension, plus profonde, plus puissante à nos yeux aujourd'hui ? Et quelles conséquences ? Notre manière de voir Jésus peut-elle avoir dans notre vie aujourd'hui ? Telles sont les questions que nous pouvons nous poser à la lumière de ce passage. Nazareth, à l'époque de Jésus, est un modeste village, un petit village de Galilée, et qui n'a jamais été le théâtre de grands événements historiques. Un auteur du IVe siècle, nommé Eusèbe de Césarée, le déclare encore comme un pauvre petit village de Galilée. Il faut dire que Nazareth était un petit hameau qui ne comptait que quelques familles, accrochées à un morceau rocheux et isolées de tout. C'est dire que tout le monde se connaissait à Nazareth. Toutes les familles se connaissaient et les habitants de Nazareth connaissait donc très bien la famille de Jésus. Il savait que son père était charpentier. Il connaissait les frères et sœurs de Jésus. Mais cette proximité et cette familiarité apparente des gens de Nazareth avec Jésus et sa famille ont contribué à construire dans leur esprit un préjugé tenace sur la personne de Jésus, selon lequel Jésus n'était que le fils du charpentier. En dépit des informations qui leur parvenaient sur les exploits et les miracles de Jésus, pour les gens de Nazareth, Jésus ne pouvait prétendre à aucun autre avenir que d'être et de devenir charpentier comme son père. Voilà pourquoi ils ne croyaient pas en lui et à ses exploits. Les concitoyens de Jésus ne le voyaient que comme le fils du charpentier, même si pour nous, aujourd'hui, et je ne veux me fâcher avec personne, c'est un grand métier, c'est un beau métier, charpentier. Mais à l'époque de Jésus, ils voyaient ce métier comme quelque chose de pas très grand. D'ailleurs, que pouvait-il faire de bon ? Jésus, en tant que ressortissant de Nazareth, justifiait bien la réputation de ces villages selon laquelle rien de bon ne pouvait sortir de Nazareth. C'est ainsi que Nathanaël, au moment où Philippe vient lui préciser que Jésus est le fils de Joseph de Nazareth, se moque en lançant cette parole « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Jean chapitre 1, verset 46. Voilà ce que les gens de Nazareth pensaient de Jésus. Et cette façon de voir Jésus, cette façon méprisante de le regarder en le limitant à ses modestes conditions familiales aura des conséquences dramatiques, tant pour le village de Nazareth que pour sa population. Et c'est cela que Dieu veut nous faire entendre ce matin, la façon de considérer Jésus. Car Jésus n'a rien pu faire dans cette contrée, pourtant considérée comme étant sa propre patrie. Le verset 58 nous dit « Aussi ne fit-il là que peu de miracles à cause de leur incrédulité. » Ce qui nous amène à dire que si tu veux voir les miracles de Jésus s'accomplir dans ta vie, ne le regarde pas simplement comme le fils du charpentier. Regarde-le comme le fils de Dieu. Parce que c'est une question de foi. Ne regarde pas Jésus comme le fils du charpentier, incapable d'agir dans ta vie. Mais regarde-le comme le fils de Dieu, rempli de puissance et de force. Et alors, il accomplira des miracles pour toi. Et regarder Jésus comme le fils de Dieu, c'est le regarder non plus par les yeux de la chair, mais par les yeux de la foi et de l'esprit. Je voudrais donc, ce matin, chers frères et sœurs en Christ, montrer à quel point il est primordial et absolument important de considérer Jésus à sa juste valeur, c'est-à-dire comme le Fils du Dieu Tout-Puissant, si nous voulons bénéficier et recevoir ces miracles. Je veux montrer que l'accomplissement des miracles de Jésus dans nos vies est entièrement dépendant de notre manière de le regarder ou de le considérer. Même si tout est grâce, même s'il nous accorde ses grâces, mais Jésus veut qu'on le considère à sa juste valeur, qu'on le prenne vraiment comme le Fils du Dieu Tout-Puissant, rempli de pouvoir et de puissance pour qu'il agisse efficacement dans notre vie. Si nous considérons réellement Jésus comme le Fils de Dieu, c'est-à-dire comme un être extraordinaire, chargé de puissance et capable de transformer nos vies, alors nous verrons sa gloire se manifester sur nous. Mais si nous ne le limitons qu'à son statut de fils de charpentier, ne pouvant rien faire d'autre que le métier de charpentier, alors il ne fera, comme à Nazareth, que très peu de miracles pour nous, voire pas du tout. Et pour comprendre cette vérité, nous devons d'abord répondre à ces quelques questions. La première, pour quelle mission Et pour quelle raison Jésus décide-t-il de revenir à Nazareth, sa propre patrie? Lui qui a fait le tour du monde, accomplissant des miracles partout où il est passé. Et tout d'un coup, il choisit de revenir à Nazareth. Pour quelle raison? Et comment est-il accueilli dans cette ville qu'il a vue grandir? D'autre part, s'il est vrai que Jésus, ce fils du charpentier, a pu réaliser tant d'exploits partout où il est passé et qu'il a fait preuve d'autorité et de sagesse, même à Nazareth, d'où tient-il sa sagesse et son pouvoir d'accomplir de tels miracles? Lui qui n'est que fils du charpentier, d'où tient-il son pouvoir? Et enfin, alors qu'il a fait des choses extraordinaires partout ailleurs, comment expliquer le silence et l'inefficacité de Jésus dans sa propre patrie, Nazareth? C'était incroyable. La ville de Nazareth est restée célèbre dans le monde jusqu'à aujourd'hui parce que ce nom a été toujours attaché au nom de Jésus. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Mais Nazareth est passé à côté de la grâce. Comment expliquer cela? Et de manière plus générale, quelles conséquences les préjugés que nous avons sur Jésus peuvent-ils avoir dans nos vies? Pour commencer, interrogeons-nous d'abord pourquoi Jésus revient à Nazareth. Nous nous rappelons que Nazareth, c'est la ville où Jésus a grandi. C'est sa ville. Il a vécu avec toute sa famille dans cette ville. S'il décide de venir à Nazareth, c'est un retour aux sources. C'est un retour aux sources qui est censé réconforter et faire du bien à lui, mais aussi à ses concitoyens. Le verset 54 nous dit « Il retourna dans la ville où il avait vécu ». Voilà pourquoi il revient. Un retour aux sources. Il vient se ressourcer. Il vient aussi à Nazareth pour faire du bien aux siens. Il a tant donné ailleurs, c'est au tour de Nazareth, sa patrie, de recevoir sa part de bénédiction et de récompense. Jésus vient enfin à Nazareth pour accomplir ce pourquoi il est venu sur terre. Pour faire ce qu'il sait faire de mieux. Enseigner. Jésus vient à Nazareth pour enseigner la parole de Dieu. Il est dit au verset 54, « Il enseignait ses concitoyens dans leur synagogue. » La synagogue est un édifice où avait lieu, dans chaque ville et chaque village important, le culte juif. Et le culte consistait essentiellement à lire la loi et les prophètes, à faire la prédication et à dispenser l'enseignement religieux. Jésus est donc en parfaite conformité avec sa mission et en droite ligne avec ce qui se pratiquait à Nazareth et à son époque. Et Jésus va très rapidement se distinguer par la qualité de son enseignement. La parole nous dit au verset 54, « Son enseignement les impressionnait. » Cela veut dire que l'enseignement de Jésus à Nazareth a touché les cœurs, a touché les gens, qu'il a laissé des traces. Et cela n'est pas très étonnant pour nous au final aujourd'hui, car il n'y a pas meilleur enseignant de la parole que Jésus lui-même. Mais, et c'est là le vrai paradoxe, malgré la grande qualité de cet enseignement, malgré le fait que les gens de Nazareth aient été touchés par cet enseignement de Jésus et qu'ils aient été impressionnés, comme nous dit la parole, cela ne les a pas conduits pour autant à la foi et à la conversion. Nazareth a été impressionné par l'enseignement de Jésus, mais est resté incrédule. Comment cela se fait-il? Touché, mais pas converti. Cela veut dire qu'on peut être affecté, touché et même impressionné par un enseignement, une parole, un message, sans que cela nous conduise à la foi. Ce n'est donc pas la qualité de l'enseignement ni la force de l'argumentation qui compte, pour conduire les hommes à la piété. Ici, c'est le maître lui-même qui enseigne. Pour amener les hommes à la foi, il faut plus que de l'intelligence du messager, plus qu'un discours convaincant. Il faut l'intervention puissante de l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 4 à 5, « Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de la puissance de l'Esprit. Ainsi, votre foi a été fondée, non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. » Je peux parler bien. Je peux même bien prêcher. Je peux même être très convaincant. Mais si l'Esprit de Dieu n'agit pas puissamment en chacun d'entre nous, cela ne nous conduira pas à la foi. Cela ne nous permettra pas d'être convertis. C'est l'Esprit de Dieu qui agit. Les habitants de Nazareth ont été impressionnés par la qualité de l'enseignement de Jésus, mais n'ont pas été touchés spirituellement au point de se convertir et d'avoir la foi. On peut le regretter, mais c'est ainsi. Toutefois, s'il y a une chose sur laquelle les habitants de Nazareth étaient tombés d'accord, c'est sur la qualité exceptionnelle de l'enseignement de Jésus. C'est sur la grande sagesse dont il faisait preuve et sur son pouvoir d'accomplir des miracles. Mais la question est justement là. Verset 54, d'où tient-il alors cette sagesse et le pouvoir d'accomplir ces miracles? Comment se fait-il que c'est Jésus qui est issu d'une famille si modeste et qui n'a vraiment jamais fait de grandes études puisse jouir d'une telle intelligence? D'où peut-il lui venir ce pouvoir de faire de si grands miracles, tels que guérir les aveugles, faire marcher les paralytiques, ressusciter les morts, marcher sur l'eau? Voilà ce qui intriguait les concitoyens de Jésus. Car les gens de Nazareth étaient bien au courant des miracles que Jésus a pu accomplir ailleurs. La question qui se pose ici est une question qui a toujours traversé la vie de Jésus sur terre. La question de son pouvoir, de son autorité, de son origine même. D'où vient-il? Pour qui parle-t-il? Et de qui tient-il son autorité? Mais si on se place dans le contexte des habitants de Nazareth à cette époque, je pense qu'on comprendrait leurs interrogations. À leur place, on se poserait peut-être même les mêmes questions. Voilà un homme qui a grandi avec nous et dont on connaît presque tout. Sa famille, ses origines modestes, dont on sait qu'il ne peut prétendre à aucun autre avenir que celui d'être charpentier. Et qui, tout d'un coup, fait preuve d'une grande sagesse et d'un pouvoir extraordinaire. D'où tient-il cette sagesse et ce pouvoir? Toutefois, cette question aurait dû justement conduire les gens de Nazareth à pousser leurs réflexions plus loin et à sortir du cadre trop limité des seules conditions socio-culturelles de Jésus pour ouvrir les yeux sur le plan spirituel. Car si subitement quelqu'un d'aussi modeste que Jésus devient si puissant et si intelligent, c'est qu'il y a autre chose derrière ce qu'il donne à montrer, derrière ce qu'il donne à voir. Et cette autre chose, c'est la puissance même de Dieu. Cette autre chose nous en dit long sur la véritable origine de Jésus. Cette autre chose nous révèle que Jésus n'est pas simplement le fils du charpentier Joseph, ni simplement le fils de Marie, ou seulement le frère de Jacques, de Joseph, de Simon ou de Jude, comme le pensaient les gens de Nazareth. Cette autre chose, qui est le Saint-Esprit, aurait pu faire comprendre aux contemporains de Jésus et aussi à nous que ce pouvoir et cette sagesse dont fait preuve Jésus ne viennent pas de sa famille terrestre, mais de son véritable Père, qui est dans le ciel, c'est-à-dire de Dieu lui-même. Voilà d'où Jésus tient cette sagesse et ce pouvoir, de Dieu le Père. Et Jésus, durant son séjour terrestre, n'a eu de cesse que de montrer à ses disciples et à tous ceux qui l'accompagnaient d'où lui venait son pouvoir et son autorité. « À celui qui m'a envoyé », disait-il toujours. C'est ainsi qu'il dit dans Jean chapitre 5, au verset 36, cette parole. « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a données d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. » C'est Dieu le Père qui a envoyé son Fils, Jésus-Christ, et c'est donc aussi de lui qu'il tient son pouvoir et sa sagesse. Il dit encore dans Jean chapitre 6, verset 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jésus tient sa puissance de celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire de Dieu, son véritable Père. Ce Père dont il a reçu honneur et gloire lorsque le ciel s'est ouvert et qu'une voix s'est faite entendre, 2 Pierre chapitre 1, verset 17. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus vient donc de Dieu. C'est lui qui est son vrai Père. C'est de lui qu'il tient tout pouvoir. Il nous dit dans Matthieu chapitre 28, au verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et celui qui lui donne ce pouvoir, ce n'est autre que Dieu lui-même. Nous avons donc la réponse à la question que se posaient les habitants de Nazareth, qui cherchaient à savoir d'où Jésus tenait sa sagesse et son pouvoir. Nous pouvons maintenant répondre en disant « Il tient sa sagesse et son pouvoir de Dieu et de Dieu seul. » C'est pour cela qu'il dit à ceux qui voulaient l'arrêter ces paroles remplies de bon sens dans Jean chapitre 10, versets 37 à 38. « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne les croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Les miracles de Jésus auraient dû faire comprendre aux habitants de Nazareth qu'il n'était plus simplement ce fils du charpentier qu'ils avaient toujours connu, mais qu'il a atteint une autre dimension qui faisait de lui non plus seulement un homme, mais un être rempli de puissance divine. Et cela aurait suffi à les sortir de leur incrédulité. Nous avons besoin d'avoir cette connaissance de Jésus. Nous avons besoin d'affirmer que Jésus est le Fils de Dieu, rempli de puissance, et pour que nous puissions justement voir efficacement ses œuvres dans nos vies. Oui, en voyant la sagesse de Jésus et en entendant parler de ses miracles, ses concitoyens auraient pu dire comme Simon-Pierre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et non plus seulement le fils du charpentier. » Et cela compte de voir Jésus de cette manière-là. Mais alors, qu'est-ce qui a empêché les gens de Nazareth de connaître la vérité sur Jésus? Qu'est-ce qui a bloqué leur foi et qui finalement a rendu toute action de Jésus inefficace dans cette ville? L'action de Jésus peut être inefficace dans nos propres vies, parce que nous ne croyons pas assez au fait qu'il soit le Dieu tout-puissant. Parce que nous ne croyons pas assez au fait qu'il soit le Fils de Dieu rempli de pouvoir et de puissance et qu'il est capable de transformer nos vies. Oui, son action peut se révéler inefficace dans nos propres vies. Ne soyons pas comme les gens de Nazareth. Et c'est ce que le Seigneur a envie de nous faire entendre ce matin. Quel regard portes-tu sur Jésus dans ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu le prends vraiment comme le Fils de Dieu qui peut agir pour toi? La familiarité des gens de Nazareth avec Jésus et sa famille a nourri en eux des préjugés, oui, des préjugés sur la personne de Jésus. Préjugés qui ont fini par les maintenir dans leur incrédulité. Parce que parfois nous croyons trop connaître Jésus. Nous croyons même que, oui, nous avons grandi avec lui parce que Nos parents nous ont amenés à l'église dès tout petit. Nous avons connu Jésus. Nous avons avancé avec. Nous sommes chrétiens, nous sommes baptisés. Nous connaissons plein de choses de Jésus. Et parfois, cela peut nous induire en erreur. Parce que nous pensons que nous n'avons plus besoin de faire d'efforts pour le connaître encore davantage, pour le connaître encore mieux, pour le saisir véritablement. C'est cela. Faisons attention, nous, chrétiens, parce que nous tombons parfois dans une certaine routine en nous disant « Je vais à l'église tous les dimanches, je lis la Bible, je prie, donc je connais Jésus et je n'ai plus besoin de faire d'efforts. » Nous avons toujours besoin de faire des efforts pour connaître Jésus, pour le connaître en profondeur. Et c'est ainsi qu'il agira encore efficacement dans nos propres vies. Oui, les préjugés que les gens de Nazareth avaient sur Jésus et sa famille ont été un véritable obstacle à leur foi. Leur ignorance et leur prétendu savoir sur Jésus ont été des obstacles à leur foi. La parole dit au verset 57, « Et voilà pourquoi ils trouvaient en lui un obstacle à la foi. » Les gens de Nazareth pensaient trop bien connaître Jésus et leurs prétentions, voire leur orgueil, les ont empêchés de connaître la vérité sur Jésus. Faisons attention. Notre orgueil et notre prétendu savoir peut nous éloigner de Jésus et de sa vérité. C'est par notre humilité et notre bonne disposition d'esprit que Jésus peut se révéler à nous. Nazareth ne pouvait pas croire parce qu'il pensait trop bien connaître Jésus et sa famille. Ils sont restés bloqués sur les conditions modestes dans lesquelles Jésus a vécu pour le mettre dans une case unique, fils de charpentier. Et rien que ça. Voilà pourquoi ils se sont trompés à son sujet. Méfions-nous des apparences. Prenons garde à ce que nous pensons connaître de Jésus. Trop souvent, nous pensons connaître Jésus par nos propres moyens et en profondeur. Trop souvent, nous pensons vraiment le saisir dans toute sa dimension. Parce que nous allons à l'église, ou parce que nous prions, ou parce que nous lisons la Bible, alors que nous ne saisissons qu'une infime partie de ce qu'il est véritablement. Beaucoup de gens aujourd'hui lisent la Bible en ayant déjà dans leur tête leur vérité. Ils n'ouvrent pas la Bible pour se laisser découvrir, pour se laisser enseigner par l'Esprit Saint et par la parole, mais ils lisent la Bible pour critiquer, pour pointer les erreurs, comme s'il pouvait y avoir des erreurs dans la Bible. Ouvrons notre cœur pour que Christ nous parle et qu'il nous dise, lui, ce qu'il est véritablement. Parce qu'il y a une vérité sur lui et c'est lui qui nous la donne. Ce n'est pas nous qui connaissons Jésus, c'est lui qui se révèle à nous. Ce n'est pas nous qui connaissons Jésus, c'est lui qui nous saisit. L'apôtre Paul a été saisi par le Christ sur la route de Damas. Laissons-nous saisir par lui. Ne tombons pas dans le même piège que les gens de Nazareth, qui pensaient trop connaître Jésus, et cela les a induits en erreur, devenant aussi un obstacle à leur foi. Disposons notre cœur de telle sorte que Jésus lui-même vienne se révéler à nous dans toute sa splendeur. C'est ainsi que nous pourrions le connaître véritablement. Car il existe une vérité sur Jésus, et cette vérité, ce n'est pas nous qui la possédons, mais c'est Jésus lui-même qui vient nous l'a révélé. Et alors, quelle est cette vérité que Jésus nous révèle? Voilà la question. Que nous dit Jésus sur lui-même, sur sa patrie, sur ses frères et sœurs, sur son père? Car il est important de connaître la vraie patrie de Jésus, ses vrais frères et sœurs et son vrai père, pour non seulement placer notre foi en lui, mais aussi pour recevoir sa puissance et ses miracles. Les gens de Nazareth n'ont pas reçu les miracles. C'est dommage. Ils n'ont pas connu les miracles de Jésus parce qu'ils se sont trompés sur sa personne et sur son histoire. Je n'aimerais pas que ce soit notre partage. J'aimerais ce matin que nous connaissions véritablement Jésus et que nous ne nous trompions pas sur sa personne afin de recevoir ses miracles. C'est cela, afin de recevoir sa puissance. Ne soyons pas comme Nazareth. Ils se sont trompés d'abord sur la patrie de Jésus, pensant que Jésus était vraiment de Nazareth. Ça, c'était la réalité, mais pas la vérité. Or, Jésus lui-même nous dit, et c'est ça qui est important, c'est que Jésus nous dit. C'est cela sa vérité. Et c'est cela que nous devons savoir. Jésus lui-même nous dit, dans Jean chapitre 18, verset 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point ici-bas. » Non, Jésus n'est pas de Nazareth. Jésus est du ciel. C'est cette vérité qui a manqué aux habitants de Nazareth pour qu'ils croient en Jésus et qu'ils le voient autrement. Ils ne l'ont vu que comme le fils du charpentier. Et voir Jésus comme le fils du charpentier, pour nous, aujourd'hui, a un sens et une signification. C'est quoi? C'est par exemple ne pas faire appel à lui dans la prière. C'est cela une façon pour nous de le voir comme le fils du charpentier. Aujourd'hui, voir Jésus comme le fils du charpentier, c'est refuser de lui confier nos projets, pensant qu'il ne peut rien faire d'extraordinaire pour nous. Voir Jésus comme le fils du charpentier aujourd'hui, c'est au final manquer de foi en Jésus-Christ. Et le monde aujourd'hui, par son incrédulité, continue de regarder Jésus comme le fils du charpentier. Les gens de Nazareth se sont trompés aussi sur la mère de Jésus et sur ses frères et sœurs, pensant que sa mère était Marie. Certes, c'était sa mère terrestre. Certes, c'était la réalité, mais pas la vérité. Ils pensaient aussi que ses frères et sœurs étaient Jacques, Joseph, Simon et Jude. Or, Jésus lui-même nous dit, et c'est ça qui est plus important, Luc chapitre 8, verset 21, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Et c'est une bonne nouvelle, chers frères et sœurs, parce que ça veut dire quoi? Que toi, moi, nous pouvons tous faire partie de la famille de Jésus si nous écoutons la parole de Dieu et si nous la mettons en pratique. Et ça, les gens de Nazareth n'avaient pas vu ça. Ils ne connaissaient pas cette vérité. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés fixés sur ce qui était visible pour eux, sur ce qu'ils voyaient en face. C'est Jésus qui a grandi aux côtés d'eux, qui n'a jamais été à l'école. C'est cela. C'est sur ça qu'ils sont restés bloqués. Les gens de Nazareth se sont trompés enfin sur son père, pensant que Jésus n'était que le fils du charpentier Joseph, alors qu'il nous dit lui-même, et c'est ça qui est important, ce que Jésus nous dit de lui. Luc chapitre 22, verset 70, tous dirent, « Tu es donc le fils de Dieu ?» Et il leur répondit, « Vous le dites, je le suis. » Jésus est donc le fils de Dieu, et non simplement le fils du charpentier. Alors, toutes ces erreurs et tous ces préjugés ont conduit les habitants de Nazareth à l'incrédulité et ont fini par constituer un obstacle à leur foi. Voilà pourquoi ils n'ont pas reçu les miracles de Jésus et que son action à Nazareth a été totalement inefficace. Ne tombons pas dans les mêmes préjugés à propos de Jésus. Je prie le Seigneur que cela ne soit pas notre partage, que nous apprenions à connaître vraiment la puissance de Jésus. Et c'est ainsi que nous l'expérimenterions dans nos vies. Chers frères et sœurs en Christ, notre manque de foi, nos préjugés sur Jésus peuvent nous priver de sa grâce. Aujourd'hui, beaucoup de gens regardent Jésus de travers. Oui, ils le voient comme un charlatan. Ils le regardent comme un fantôme qui n'a aucune influence dans leur vie. Pire, qui fait peur. Quand on interroge les gens dans la rue sur ce qu'est Jésus, incroyable les réponses qu'on peut avoir. Incroyable. On est très surpris. Beaucoup de gens aujourd'hui regardent Jésus comme les habitants de Nazareth autrefois. Comme un personnage insignifiant dans l'histoire de l'humanité. Nous avons besoin de connaître Jésus en profondeur. Nous avons besoin de connaître sa vraie patrie, le royaume des cieux, ses vrais frères et sœurs que nous sommes, son vrai Père qui est Dieu, pour recevoir ses bénédictions. Et toutes ces vérités se trouvent aujourd'hui dans sa parole. J'ai dit tout à l'heure que nous pensions connaître Jésus parce que nous lisons la Bible. Je ne dis pas, entendons-nous bien, qu'il ne faut pas lire la Bible. Il faut la lire, il faut l'ouvrir. Mais j'ai dit tout simplement qu'il faut l'ouvrir avec un cœur qui est disposé à recevoir la vérité que Dieu nous a révélée dans cette parole. N'ouvrons pas la Bible avec un cœur fermé. Ne venons pas à l'église avec un cœur fermé. Venons à l'église avec un cœur ouvert, disposé à recevoir la révélation de Dieu, la parole de Dieu. C'est ainsi que nous pourrons connaître ces miracles. C'est ce que je veux dire. Nous avons donc besoin de connaître Jésus en profondeur. Et toute cette vérité se trouve dans sa parole. La meilleure façon de connaître Jésus aujourd'hui, c'est par les Saintes Écritures, par la méditation de sa parole et en se laissant guider par le Saint-Esprit qui seul peut nous révéler toute la vérité sur Jésus, son œuvre, sa vie, sa mort et sa résurrection. Alors, qui est Jésus pour toi aujourd'hui? Quel regard portes-tu sur lui aujourd'hui? Le vois-tu comme les gens de Nazareth qui ne le regardaient que comme le fils du charpentier, incapable d'agir sur leur vie? Ou le vois-tu comme Pierre l'a vu, c'est-à-dire comme le fils du Dieu vivant, rempli de puissance et par conséquent capable de transformer ta vie? Chers frères et sœurs, si nous voulons voir les miracles de Jésus et sa puissance déversée dans nos vies, ne le regardons pas comme le monde le regarde aujourd'hui. C'est-à-dire comme un charlatan, un magicien ou un gourou. Ne l'enfermons pas comme les gens de Nazareth dans une seule case péjorative. Regardons Jésus comme ce Fils de Dieu qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre par lequel il peut encore aujourd'hui agir efficacement dans nos vies. Ne regarde pas Jésus comme le fils du charpentier. Regarde-le comme le fils de Dieu et tu verras sa gloire. Je souhaite que chacun puisse partir d'ici ce matin en disant « Le monde a beau négliger Jésus, le monde a beau le disqualifier, le monde a beau le mépriser, pensant qu'il n'a aucune influence sur lui, le monde n'a beau le regarder que comme le fils du charpentier, moi, je sais que Jésus est le fils de Dieu, le fils du Dieu vivant, qui agit puissamment et efficacement dans ma vie. Amen.